une histoire particulière. C'est l'heure de la suite. La suite de quoi ? Mais la suite de notre histoire en deux épisodes que nous avons commencé hier. Voici un rapide récap. Hier, dans le premier épisode du documentaire Qui se souvient de Dulcie September, Michel Pomared et Jean-Philippe Navarre nous ont présenté une femme. Mais plus qu'une femme, une battante, une militante anti-apartheid, opiniâtre et appliquée, qui voulait faire bouger les lignes. Dulcie September fut arrêtée, jetée en prison, puis exilée à Londres en 1969. Elle deviendra membre du mouvement anti-apartheid de Grande-Bretagne, puis s'installera à Paris en 1983, où elle sera assassinée le 29 mars 1988. La suite, c'est maintenant, presque 30 ans après, une suite racontée par Michel Pomared et Jean-Philippe Navarre dans le second épisode.
Voilà, donc là nous arrivons rue de la Convention, je crois que c'est le 100 ou 101, hein, je ne me rappelle plus. On a fait poser cette plaque, ici vécue de janvier 1987 à mars 1988, Dulcie September, représentante de l'African National Congress en France, assassinée le 29 mars 1988 par l'apartheid. Hommage de la ville d'Arcueil le 28 mars 1989.
Dulcie September, affaire non classée. Une vie entre mémoire et oubli. Michel Pomared, Jean-Philippe Navarre. 14 juillet 1996.
Assister au défilé du 14 juillet pour Nelson Mandela, un véritable symbole. Sans doute se souvient-il ce matin des jours sombres de l'apartheid, quand les Noirs se soulevaient dans les ghettos avec la Révolution française pour phare, l'unique soulèvement non marxiste figurant à l'époque dans leur manuel d'histoire. L'apartheid vaincu, le mythe de Nelson Mandela reste intact.
Bon, moi, j'ai eu l'occasion d'accueillir tous les présidents sud-africains. Mandela, c'était Marcel Trigon qui était là. Je n'étais que son premier adjoint, mais c'est l'immense souvenir d'Arcueil. Si vous voulez, si vous croisez des gens dans la rue, c'était un 14 juillet, mais tous les gens qui n'étaient pas en vacances sont venus ici. Et c'est un souvenir merveilleux, l'humanité et l'aura de Nelson Mandela. Notre livre d'or, nous avons la signature de Mandela. Peu de villes peuvent s'en vanter.
Alors Jacqueline Doras, Nelson Mandela s'est tenu là, à voilà. Cet endroit, devant cet immeuble de 6 étages à la façade un peu grise, quasiment au carrefour d'une rue très passante, on l'entend, avec ce petit parterre de fleurs et cette plaque toute simple.
Voilà.
Le héros Madiba était là.
Madiba était là avec sa chemise à fleurs, bien sûr. Et Madiba a dit, bon, c'était moi qui traduisais son discours, et il a dit une chose qui m'a vraiment... Il a dit à peu près, hein, je cite de mémoire, finalement, nous, en prison, on n'était pas si mal. Parce qu'au moins, on mangeait. Pas très bien, mais on mangeait, alors que je savais qu'il y avait des gens dans mon pays qui mouraient de faim. Et puis, nous étions ensemble, nous, les prisonniers politiques à Robben Island. Tandis que Dulcie, elle était toute seule. Et l'exil, c'est pire que la prison.
Daniel Breuiller, où est-ce qu'on est ?
Donc on est dans mon bureau, au premier étage de l'hôtel de ville. Voilà cet hôtel de ville qui était dirigé par Marcel Trigon, mon prédécesseur comme maire, lequel Marcel Trigon a fondé les Rencontres nationales contre l'apartheid et accueilli Dulcie September dans cette belle commune d'Arcueil, hélas jusqu'à son assassinat. D'abord, il faut se rappeler un peu quel était le contexte de l'époque. Hein. Aujourd'hui, la lutte anti-apartheid, et il est de bon ton de dire que tout le monde a lutté contre l'apartheid. Pour ma part, je me souviens de manifestations, nous étions à la fois devant et derrière. Il y avait quand même un peu moins de monde. Et puis, une des batailles principales était la question du boycott. Les gouvernements français avaient une activité commerciale soutenue avec l'Afrique du Sud. Donc on était dans une bataille qui était difficile. Marcel Trigon était un militant très soucieux des questions internationales. Il avait dans son parcours de communiste eu plusieurs responsabilités à ce titre-là. Et donc il a décidé d'accueillir à Arcueil Dulcie September. L'ANC avait des bureaux, mais n'avait aucun moyen, hein, il faut bien le dire. Donc c'était un hébergement solidaire et fraternel offert par la ville d'Arcueil à la représentante de l'ANC. Et puis il a fondé en même temps d'ailleurs les Rencontres nationales contre l'apartheid qui visaient aux côtés d'autres mouvements, a donné une assise plus forte à cette lutte anti-apartheid qui était très puissante en Grande-Bretagne et, faut le dire, à l'époque assez faible en France. Avant d'habiter avenue de la Convention, Dulcy a été logé pendant quelques mois. C'est un sujet peu connu dans l'école Henri Barbus, qui est juste à côté. En fait, on l'aperçoit de l'autre côté, dans un logement de fonction qui était vide. Quand elle est arrivée, il fallait trouver un logement. Et Marcel Trigon l'avait logé là. Il avait d'ailleurs mis en place... on savait qu'elle était menacée. Il y a eu plusieurs attentats contre des représentants de l'ANC. Il avait monté avec la section du Parti communiste un groupe de militants qui étaient vigilants et qui surveillaient les abords. Et donc Dulcy a vécu là quelques mois. Et au moment où les menaces se précisaient sur sa vie, elle a tenu absolument à être relogée ailleurs parce qu'elle ne voulait pas que si un attentat se produise, des enfants puissent être évidemment mêlés.
Nestor Vidal-Anur, la première fois que vous rencontrez Dulcy September, qu'est-ce que vous vous dites? Quelle impression elle vous fait, cette femme venue d'Afrique du Sud?
Dulcy September, c'était une grande dame, forte, avec une petite voix. Et quand je l'ai rencontrée, je ne connaissais pas vraiment son histoire. Hein, le fait qu'elle avait été emprisonnée pendant 5 ans, le fait qu'elle avait été bannie quand elle est sortie de prison, je pense, si je me souviens bien, en 69, pendant près de 5 ans. Et c'est un peu plus tard que j'ai su ce qu'elle était. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, le premier service qu'elle m'a demandé, c'était de lui apprendre le français. J'ai essayé, je n'ai jamais été prof de français. Je ne suis pas sûr que j'étais le meilleur pédago et ça n'a pas duré longtemps. Mais quand elle préparait ses discours, et ça c'était la tradition de l'ANC, si vous étiez représentant de l'ANC dans un pays, il fallait absolument apprendre la langue de ce pays et commencer à s'exprimer dans cette langue. Et d'ailleurs, c'est lui qui partait, il parlait en bon français. Et Dulcy avait son accent du Cap qui ne la quittait jamais. Et chaque fois qu'elle préparait ses discours, et donc je les traduisais, et après elle essayait de répéter devant moi pour voir si ça allait. Moi j'étais convaincu que personne ne comprendrait ce qu'elle allait dire. Et je la conseillais de parler en anglais et qu'on puisse traduire. Ça la mettait en colère parce qu'elle fournissait beaucoup d'efforts. Et à l'arrivée, elle me demandait après le discours, est-ce que ça va? Autant j'entends, je lui disais... Ça va, tout le monde lui disait que ça allait, sauf moi. Et là, il se mettait chaque fois en colère et me disait que tout le monde a dit que ça allait, pourquoi moi je dis que ça allait pas? Mais en fait, c'est parce que j'étais convaincu que quand il s'exprimait en anglais, il était beaucoup plus libre et qu'on pouvait traduire, les gens comprenaient mieux. Donc on était avec ce désaccord et je pense que le jour où on va se rencontrer, on ne sera pas toujours d'accord.
Le 6 septembre était une femme à qui il était difficile de résister. Hein. Si on parle d'elle, sans doute les gens qui l'ont connue vous parleront de sa pugnacité, de sa volonté très grande et puis de son exigence dans ses combats. Donc Marcel Trigon n'a pas résisté très très longtemps et a trouvé avenue de la Convention un logement plus conforme et plus sécur aussi pour l'environnement. Voilà, sinon Dulcy, pendant ses quasiment 3 années de vie arcueillaise, a aussi participé à beaucoup d'initiatives. D'abord, elle répondait, elle disait presque oui à toutes les sollicitations pour parler de ce qu'était le système de l'apartheid et pour inviter la France, ses dirigeants, les associations, les groupes économiques à boycotter ce système. Donc moi, j'ai eu la chance, j'étais élu en 89, donc après son assassinat. Mais j'ai eu l'occasion de monter avec Dulcy des initiatives. J'étais dirigeant d'un grand club sportif qui s'appelait le Cosma. Je me rappelle avoir monté ce qu'on appelait les foulées multicolores. C'était un événement. Les enfants dessinaient dans la journée nationale de lutte contre le racisme, dessinaient leur dossard. Et Dulcy c'était une femme, c'était une enseignante. Elle était assez émue d'ailleurs de ce travail avec les enfants. Elle qui était d'une grande rigueur et d'une grande énergie, aimait aussi ce lien plus humain, plus affectif aussi, qui se dégageait dans ses initiatives. Voilà, je me souviens de nombreux débats organisés ici, je me souviens de ses présences à la télévision française à l'époque, où on lui la questionnait encore pour lui dire « Mais l'ANC, vous êtes des terroristes, vous menez une lutte armée ». Enfin, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup ont oublié à quel point la situation des militants anti-apartheid de l'époque était une situation difficile, avec beaucoup d'isolement, avec un réseau autour d'eux qui, en France, était certes important, mais pas très puissant. Voilà, donc sont des souvenirs d'une femme volontaire, d'une énergie incroyable, qui ne transigeait pas beaucoup. Avec Dulcy, il fallait mieux être d'accord avec elle si on voulait être d'accord, tout simplement, parce qu'elle avait... Voilà, elle disait toujours que la parole de l'ANC ne se négociait pas, qu'elle n'était pas discutable. C'était donc... voilà, moi, c'est le souvenir. Un souvenir aussi un peu personnel d'une soirée chez Marcel Trigon, où peut-être Dulcy a, ce qui a été assez rare, a fendu un peu l'armure, comme on dit, et où... peut-être le poids de l'exil, l'isolement de ses proches, de sa famille. Voilà.
Jacques Perrot, 14 juillet 1996, Arcueil, Nelson Mandela, devant la plaque dédiée à Dulcy September. Est-ce que vous y êtes ?
Oui, j'y suis. Et puis j'y suis. Bon, c'était un moment très émouvant, mais il y a eu d'autres moments émouvants. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Nelson Mandela 4 fois. Pour la première fois quand il est venu en France, où il a été reçu au siège du comité central, alors par Georges Marchais. Et puis j'étais à côté de Georges Marchais, où il nous a dit tous ses remerciements, toute son émotion de nous voir, de savoir qu'on s'était battu pour lui.
Mais quand même, cette scène, Nelson Mandela à Arcueil, banlieue parisienne, où a vécu Dulcy September, militante un peu oubliée de l'ANC, oubliée de son pays peut-être, qui lui rend hommage. Est-ce que il n'y avait pas la rencontre de la grande histoire et de la petite, enfin du géant et de l'anonyme finalement?
Oui, bien sûr. Bon, c'était la reconnaissance suprême d'un combat qui avait été mené dans l'ombre. Mais bon, en même temps, Dulcy September était dans l'ombre et Mandela aussi était dans une... Moi, j'ai eu l'occasion de visiter la géole de quelques mètres carrés dans laquelle il était enfermé. C'était quand même des militants de l'ANC qui avaient décidé de tout donner jusqu'à leur vie. C'était le cas pour Dulcy September, mais c'était le cas aussi pour Nelson Mandela, de tout donner pour la libération de leur peuple, pour qu'un noir soit à égalité avec un blanc. Quoi.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du 6 septembre, Jacques Perrot ?
Il suffit d'aller en Afrique du Sud pour voir qu'il reste énormément, parce que on peut évidemment être très critique sur ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud, du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue de la corruption. On n'a pas lutté pour ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les Noirs, on sent l'égalité, même si l'égalité n'est pas sociale. Mais il y a une, voilà, les Noirs sont plus dans la situation où ils étaient à raser les murs, à être pourchassés, à être assassinés, à être interdits d'utiliser leur langue à l'école, etc. Donc, ça, c'est quand même un combat qui a été gagné, et puis qui a été gagné aussi d'une façon, en définitive, très originale, puisqu'il y aurait pu avoir un bain de sang, et tout cela s'est quand même fait de façon pacifique, dans une meilleure compréhension entre les uns et les autres, entre les Noirs et les Blancs, et ça, on le doit à la hauteur de vue incroyable de ce monsieur qui, pendant 27 ans, a été en prison et a certainement beaucoup réfléchi à la façon dont il allait sortir son peuple de l'abîme.
Hélène Broyer, aujourd'hui, avenue de la Convention, il y a une plaque où est mentionné que Dulcy September a résidé. C'est une plaque qui a été dévoilée en 89. Un an après, le collège de la ville a pris le nom de Dulcy September. Outre ces lieux de mémoire, est-ce que vous avez l'impression que vos anciens administrés, enfin les gens qui vivent autour de vous, ont quand même gardé en mémoire cette femme ?
Paradoxalement, Dulcy est très présente dans l'imaginaire. Bon, d'abord, si vous allez devant la plaque, vous verrez en face un mur qui a été spontanément tagué par des jeunes pour Mandela et pour la lutte anti-apartheid. Si vous allez sous le pont du RER, on a mis des images des personnages célèbres d'Arcueil, et évidemment Dulcy est en bonne place. Et puis pendant les 19 années où j'étais maire, j'organise 2 ou 3 fois par an des visites des nouveaux habitants. Et dans le patrimoine de la ville, évidemment, je cite avec beaucoup de fierté le personnage de Dulcy September. Mais au-delà de cette mémoire transmise, nous avons cherché à faire vivre sa mémoire à travers des actions concrètes qui ne sont pas faciles. L'Afrique du Sud, c'est loin, les coûts de déplacement sont difficiles. Cette société, quand elle s'est éveillée à la démocratie, Les dirigeants n'avaient pas non plus des moyens considérables à consacrer à des échanges internationaux de type citoyen associatif. Mais le collège a eu plusieurs projets avec un établissement du Cap d'où est originaire Dulcie September à Athlone. L'association Femmes Solidaires a développé, avec l'appui de la ville, hein, nous avons financé un centre d'accueil pour femmes victimes de violences en Afrique du Sud. Je l'ai pas dit, mais Dulcie, c'était peut-être d'abord une féministe. Enfin, c'était d'abord une militante anti-apartheid. C'était aussi une féministe. Et moi, j'étais assez fier de voir dans la Constitution sud-africaine que cette question de l'égalité femmes-hommes occupait une très grande place. Dans la société, c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, dans la Constitution, cette affirmation, je pense, aurait fait plaisir à Dulcie et puis aux nombreuses femmes qui se sont engagées dans cette lutte anti-apartheid.
Quand on pose la question à un copain, et toi, t'es où au collège ? Ah, moi, je suis chez Dulcie. C'est tous les gamins répondent, ah ben moi je suis chez Dulcie.
On a presque 700 collégiens. Bon, les collégiens, ils ont entre 11 et 15 ans, c'est l'âge où on bouge beaucoup, etc. J'ai été très impressionné quand on a appris la mort de Nelson Mandela. Je suis allé rejoindre le principal de l'établissement. Nous avons fait une minute de silence, tous les collégiens dans la cour de l'établissement. Franchement, je ne vois pas 700 adultes respecter à ce point une minute de silence. C'était très étonnant parce que dans le collège, à travers un prix des valeurs humaines qui est décerné chaque année, la mémoire, mais au sens de la mémoire vive, la mémoire des valeurs qu'incarnait Dulcie September reste très portée. Et puis on est une ville de banlieue, cette ville a l'accueil des dizaines de nationalités. On est ici citoyen, quelle que soit sa nationalité, sa couleur de peau, son statut social. Donc il y a dans le combat qui était celui de l'égale dignité des hommes et des femmes que menaient Dulcie, l'ANC et leurs camarades, nous avions évidemment une empathie naturelle. Parce que notre société est aussi multiculturelle, elle a aussi des problèmes de racisme, même s'ils ne sont pas exacerbés comme l'apartheid, qui était un système de racisme organisé. Donc nous avons, nous aussi, des choses à apprendre. Et mes visites sur place m'ont notamment enseigné ça. C'est-à-dire que vous pouvez abattre un régime d'apartheid, mais les traces de l'apartheid, la façon dont elle marque les esprits, elles ont une profondeur qui nécessite sans doute plusieurs générations pour être surmontée.
Nestor Bidadamur, ça fait 30 ans presque que Dulcie September a été tuée ici, au 28 rue des Petites Écuries, dans le 10e arrondissement à Paris. Est-ce que vous pensez que sa mémoire a été oubliée en Afrique du Sud ? Ici, en France, il y a des places qui ont son nom. Dans le Val-de-Marne, il y a des rues, des collèges. Donc ici, elle a laissé des traces. Est-ce que vous avez pu faire un voyage en Afrique du Sud ? Est-ce que vous avez trouvé des traces d'elle là-bas ?
Bon, ce qui est sûr, c'est qu'en France, j'ai essayé de calculer, il y a au moins 34 places qui portent le nom de Dulcie September. Elle n'a pas été oubliée du tout par le mouvement anti-apartheid, par les démocrates français. Ça, c'est quelque chose de très important.
Le bruit et la fureur de ma vie réduit à une collection de boîtes.
Extrait de la pièce de Denise Newman, Dulcie September, Affaires classées.
L'histoire de ma vie est là, dans ces boîtes d'archives, celle du gouvernement et celle des universités. Il y a même des petits morceaux de ma vie enfermés dans les archives des services de sécurité. Cela, personne n'a le droit de les voir. Le chaos imprévisible d'une existence réduit à l'ordonnance impeccable qui alimente notre illusion de tout contrôler. Une partie de cette collection éparpillée se trouve dans les cartons étiquetés avec soin dans les archives de la Cour suprême.
Pour quelles raisons Dulcie September est-elle presque complètement oubliée en Afrique du Sud ?
Le traducteur Georges Laurie.
J'en vois plusieurs. D'abord, elle est métisse. Il n'y avait pas énormément de guerrieros métis ou de combattants métis en exil. Les grandes figures étaient noires. Du coup, on s'y intéresse moins. C'était une femme. Ça aussi, dans un milieu assez machiste, c'est peut-être quelque chose qui compte. Troisièmement, elle n'était pas très charismatique. Et je le dis pour l'avoir connue, c'était quelqu'un d'assez rigoureux, méticuleux, qui n'était pas vraiment un orateur. Et de ce point de vue-là, elle s'inscrit pas parmi les grandes figures de la lutte anti-apartheid.
Dans ces milliers de pages d'archives, mon histoire est couchée, enfermée bien sagement. Mais parfois,
Ces boîtes sont moi, Dulcie September, et elles s'agitent. Bousculées par des questions anciennes, des réponses nouvelles, et ce vent persistant de culpabilité. Je n'ai jamais beaucoup aimé le mystère. Mais les histoires qui tournent en rond finissent par perdre la dignité et la raison et restent prises au piège de l'énigme.
Jacqueline Doras, le trajet que faisait Dulcie September, c'était je vis à Arcueil et je prends le RER et je vais dans le 10e arrondissement. Mais qui payait, les affiches? Est-ce que c'est le Parti communiste qui finançait sa lutte? Est-ce que la ville l'a aussi logée parce qu'elle n'avait pas d'argent? C'était quoi? Comment est-ce qu'elle vivait du 6 septembre ici?
Eh bien, tout simplement, toutes les forces progressistes ont payé leur obol. C'est un secret pour personne. C'était le Parti socialiste qui payait la location du bureau. C'était la ville d'Arcueil qui logeait gratuitement du 6 septembre. Ensuite, je ne sais pas comment exactement se répartissaient les choses, mais je sais que la CGT, que la CFDT donnaient aussi, hein, pour l'impression de tracts, pour notre propre organisation. Je sais qu'à un moment donné, les finances étaient un petit peu dures et que j'ai payé beaucoup de notes de téléphone. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet. Tout le monde, le MRAP a certainement dû payer aussi. Donc à chaque fois, si vous voulez, et puis comme elle n'avait pas de véhicule, hein, c'était des militants qui l'emmenaient, etc. Mais Dulcie prenait très volontiers le métro. Et c'est vrai que par rapport aux habitants d'Arcueil, Dulcie avait toujours voulu, c'était quelqu'un de très... c'était quelqu'un de très chaleureux. Et avec la population, c'est-à-dire que... qu'aujourd'hui, par exemple, tous les ans, nous fleurissons la plaque devant l'immeuble où elle a vécu, les gens viennent spontanément. Les gens viennent spontanément. Et les gens un peu âgés se rappellent très bien du 6 septembre, parce qu'ils la croisaient. Hein. Elle discutait avec les gens. Elle adorait discuter.
Tout le monde me connaissait. Je m'arrêtais pour bavarder. Ce matin-là, j'ai pris mon courrier, comme d'habitude.
Cette année va coïncider avec les 30 ans de l'assassinat de Dulcie. Nous allons avoir un programme culturel assez soutenu. C'est le nouveau maire, cette fois-ci, qui l'a décidé. Ça n'est plus moi, mais évidemment, je trouve que c'est une très bonne décision avec des manifestations culturelles, la présentation de Colquaise, la pièce qui retrace un peu la vie et l'assassinat de Dulcie au théâtre Jean Villard, de nombreux échanges.
Le trajet le plus rapide pour la gare du Nord, s'il vous plaît. Les voyageurs apprennent très tôt à apprivoiser les nouveaux lieux. J'ai oublié de me languir pour le raisin, le barracuda, et j'ai adopté la boulangerie. J'apprends le français. Je suis pressée, dis-je au chauffeur de taxi. I'm in a hurry. Paris marche à un autre rythme. Quand j'ai fait mes paquets à Londres, j'ai regardé la petite pile de cartons et j'ai pensé qu'il y avait peu de choses que je voulais emmener avec moi. Il n'y a pas grand-chose auquel je suis attachée. Des livres, des lettres, des photos et les boucles d'oreilles de maman. Voyager léger, c'est facile pour moi maintenant. J'ai appris à vivre presque anonymement. Ramasser des papiers en un clin d'œil. Split personality.
Denise Newman, auteur de la pièce Dulcie September, Affaires classées.
In a divided city like Cape Town, where we have a great divide between the races, the whites of
la ville du Cap est encore divisée aujourd'hui entre les blancs riches qui exercent le pouvoir, la communauté métisse à laquelle Dulcie September et moi-même appartenons. And then the black people of et les Noirs. À tous ces habitants, je voulais qu'ils fassent connaissance avec cette femme qui a payé le prix ultime pour la liberté que nous considérons comme acquise aujourd'hui. Je souhaitais qu'ils sachent qu'il y a eu des gens qui ont passé leur vie à combattre l'apartheid, que certains sont morts dans cette lutte et que nous devons les honorer pour cela. Je pense que dans des sociétés divisées, nous avons besoin de héros. Et pour moi, Dulcie est une héroïne. Elle s'est investie pour rendre à ceux qui ne l'avaient pas dignité et liberté.
Quand vous regardez l'état du pays aujourd'hui en Afrique du Sud, est-ce que vous avez l'impression que les valeurs qu'incarnait Dulcie September sont trahies par le gouvernement ?
Je pense que Dulcie se sentirait en effet trahie et qu'elle serait aux avant-postes pour dénoncer la corruption et les sales combines politiciennes. Elle reprendrait le combat, mais cette fois-ci contre les siens. Les membres de l'ANC à laquelle elle appartenait. Je pense qu'elle serait sans voix face à la situation politique actuelle en Afrique du Sud.
Voilà ce qu'est la justice de l'apartheid.
Cette bête immonde qui se nourrit des enfants d'un peuple qui n'a plus d'autre choix que de se battre par tous les moyens.
Par tous les moyens, y compris la lutte armée.
Y compris la lutte armée.
Ça, c'est le dernier discours de Dulcie. Vous savez, quand il y a eu une manif pour les six de Sharpeville, c'est-à-dire six militants qui devaient être pendus, etc., elle était très, très remontée contre ça, parce que c'était parfaitement injuste. Puis il y avait une femme. Et si on avait pendu Thérèse Rachamamola, ça aurait été la première femme qui aurait été pendue. Donc, pour Dulcie, c'était pas possible, quoi. Et donc, on décide de faire une manif. Et au dernier moment, vous savez, les services de M. Pasqua lui ont dit « Non, ce n'est pas votre place, vous représentez l'ANC, vous ne pouvez pas aller dans une manif. » Donc, elle n'y a pas été. Sa secrétaire, Joyce, me dit « Ah, écoute, Jacqueline, Dulcie ne va pas pouvoir venir, donc je vais te donner son discours, et comme ça, Marcel pourra lire le discours de Dulcie. »
Donc Marcel, c'est Marcel Trigon.
Marcel Trigon.
La date, c'est 17 mars 1988, 15 jours avant sa mort.
Voilà. Elle dit très clairement que la France et Israël sont les deux pays qui... rendre obligatoire l'embargo pétrolier, isoler l'apartheid, la fin des relations diplomatiques, la fermeture des ambassades. Et imposer dès maintenant des sanctions populaires, soutenez notre résistance, y compris la lutte armée. Voilà. Donc c'était un discours très fort qu'elle avait fait.
Les mots ne suffisent plus. Vous devez agir. Et c'est de ce que vous ferez ou vous ne ferez pas que dépend en partie le destin de millions de gens. Nous vous appelons maintenant et avec plus de force que jamais à un soutien actif à notre lutte de libération pour une Afrique du Sud unie, démocratique et non raciale.
Il y a une photo de Dulcie prise dans les années 50. Elle marche dans une rue du Cap. Est-ce que vous pouvez me décrire cette photo ?
On voit une jeune femme, grande, belle, mince, très mince, et qui est vraiment habillée d'une manière, moi, que je trouve formidable. Et elle a une robe fleurie, la taille étranglée par une ceinture, et puis ce chemisier, et elle est très belle, quoi. C'était Dulcie, ça. Dulcie, elle était vivante. C'était pas qu'une militante.
Le regard, qu'est-ce qu'elle a dans le regard ?
Déterminée. Vous ne faites pas reculer Dulcie September. On la fait pas reculer. Il n'y a qu'une arme qui a pu la faire reculer, si je puis dire.
Merci à Jacqueline de Reims, auteur de Dulcie September, Une vie pour la liberté, aux éditions Non-Lieu. À l'auteur sud-africaine Denise Newman, à Nestor Bidadanur, écrivain et ancien collaborateur de Dulcie September, au traducteur Georges Lory et à Daniel Breuillet, ancien maire d'Arcueil. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, prise de son Jean-Guilain Meige, mixage Pascal Bénard, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomared.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain et je vous entraîne à nouveau dans le péché. Mais c'est une autre histoire.